Chapitre 7. Monsieur d'Agincourt avait dit « Laissez-moi faire, je me charge de tout ». L'attente ne fut pas longue. Avec son caractère énergique, sa rondeur toute militaire qui le portait à aborder les obstacles de front, l'ancien inspecteur des forêts ne laissa pas traîner les choses. Ce fut le soir même, en flânant sur les allées de Tourny, où, sous prétexte de prendre l'air, il avait emmené son neveu. Tout de suite, après quelques banalités, il lança « Nous avons parlé de toi aujourd'hui avec Chabran. »« Ah ? » ?»« Oui, mais voyons, commençons par le commencement. Pourquoi as-tu refusé de m'accompagner chez lui ?»« Ah, mon oncle, j'espérais que vous m'épargneriez cette pénible explication. »« Mais, mon ami, je ne te demande rien si tu crois... » « Je ne crois rien, mon oncle. Je n'ai ni parti pris, ni mauvaise volonté. Il m'en coûte seulement beaucoup de toucher à un sujet qui... Avec vous, pourtant... Allons, je vois que tu as toujours confiance dans ton oncle. »« Certainement. » »« Bon, en ce cas, laisse-moi parler. Je t'éviterai l'ennui d'un aveu, d'un récit, car je pense bien connaître à peu près l'état de la question. » Mon Dieu, oui, à la manière dont tu avais décliné cette visite, j'avais deviné de quoi il retournait, et je suis arrivé là-bas avec la résolution d'acquérir le plus promptement possible une certitude. Avec Chabran, je ne me gêne pas. Je l'ai pris à part et je lui ai dit carrément ma surprise de vous voir presque brouillés, après vous être vus enthousiasmés les uns des autres. Chabran, très embarrassé d'abord, a fini par m'avouer tout avec une franchise absolue, naïve même. Il rejette toutes les responsabilités sur sa femme. Sans elle, prétend-il, ton mariage avec Lucienne n'aurait pas été impossible, malgré les différences de fortune. Dit Henri avec un geste de scepticisme. Puis, s'arrêtant, il prit le bras du vieillard. Mon oncle, dit-il à voix basse, « quel rôle, d'après vous, ma mère a-t-elle joué dans cette affaire ?»« Ça, mon cher, je n'en sais rien. »« Votre impression ?»« C'est que ta mère n'a pas dû mettre beaucoup d'empressement à favoriser ton mariage avec Lucienne. »« Vous êtes dans le vrai, murmura le jeune homme. Ma mère a toujours été opposée à ce mariage. Son appui, pourtant, m'eût peut-être fait triompher des résistances. » Elle n'a pas compris, la pauvre mère, où se trouvait son devoir, et elle ne soupçonne pas les terribles responsabilités qu'elle a, de ce fait, encourues. « Bah, tout se répare à ton âge, mon cher ami, » interrompit le vieillard. « Pour un parti de perdu, 10 de retrouvés. Puis, veux-tu que je te dise, il n'y a rien d'irrévocable du côté des Chabran. On t'a fait grise mine parce que tu n'avais pas de fortune. » Riche, d'une 10 000 000 francs de rente seulement, tu serais le gendre rêvé, j'en suis persuadé. J'en doute. Au surplus, c'est parler pour ne rien dire. 10 000 francs de rente ne vous tombent pas du ciel. Pourquoi pas, quand on a un vieil oncle pour aider le ciel? Vous feriez cela, mon oncle. Et sans grand mérite, va. De quoi ai-je besoin, moi, maintenant? Une vieille carcasse comme la mienne se contente de peu. 2 000 ou 3 000 francs de rente que vous me feriez, j'en aurais assez. Et pour ceux qui me restent à vivre, tu accepterais ? Non, mon oncle, je n'accepte pas, répondit gravement Henri. Je ne veux pas acheter ma femme avec de l'argent. Il ne s'agit pas d'acheter. C'est un moyen, voilà tout. Puisque la vie est ainsi faite... Non, non, répéta le garde général. Après un instant d'hésitation, le vieillard reprit. « Tu n'es pas sincère avec moi, Henri. Pour refuser la planche de salut que je t'offre, il faut que tu n'aimes pas réellement mademoiselle Chabran. »« Oh, mon oncle, je vous jure !»« Quoi ?»« Que je l'ai aimée. » »« Ce qui revient à dire que tu ne l'aimes plus. » Le jeune homme n'eut pas le courage de protester et se contenta de pousser un profond soupir. Ou, continua M. d'Agincourt, que tu sois arrêté par un autre obstacle, pris dans une autre affection. Henri fut secoué d'un frisson. Soyez franc à votre tour, mon oncle, dit-il très doucement. N'ayez pas l'air de vouloir me confesser si vous savez déjà ce que vous désirez me faire avouer. L'ancien forestier eut un geste de surprise embarrassé. Puis il crut habile de s'échapper par une boutade. « Comment ne connaîtrais-je pas tes moindres actions quand toute la ville en jase ?» Le jeune homme fit un signe d'incrédulité. « Je ne me suis pas caché, c'est vrai, dit-il. Pourtant, je doute que l'opinion publique ait pu vous mettre au courant de mes actes aussi rapidement, aussi exactement. Vous n'avez vu personne depuis votre arrivée, personne autre que ma mère et les Chabrans ?» M. d'Agincourt se pinça les lèvres. « Voyons, n'ergotons pas, interrompit-il, peu importe la façon dont je me suis renseigné, puisque, en effet, je le suis. D'abord, il faut tout vous dire, je suis venu pour cela. Comment ? Oui, c'est ta mère qui m'a prié de faire ce voyage. Elle n'est pas sans avoir remarqué la crise que tu traverses. Affolée dans sa sollicitude maternelle, craignant d'être au-dessous de sa tâche, elle m'a demandé d'accourir à son secours et au tien. « Ah, très bien !» grommela Henri d'un ton bourru. « Et, sans doute, ma mère vous a fait part, dès votre arrivée, des chagrins que lui causent mes débordements, car elle a, évidemment, quelqu'un pour m'espionner. Ta mère ne savait rien. Elle te voyait souffrir sans connaître la raison. »« Ma mère ne savait rien ? Alors elle sait maintenant. Plus heureux qu'elle, vous avez tout de suite réussi dans votre enquête. » « N'est-il pas indiscret de vous demander quels moyens vous avez employés ?»« À quoi bon ?»« C'est que l'opinion publique, je le répète, ne peut pas avoir opéré ce miracle d'information. Il a fallu que quelqu'un, spécialement intéressé à me nuire ou cherchant à se venger, m'épiât, surveillât mes moindres démarches et vous communiquât le résultat de ces investigations. Or, je ne vois dans ce cas-là que Gaétan de Nestalas. « Dites-le-moi franchement, c'est de lui que vous tenez vos renseignements ?»« Soit, mettons que les Nestalas sont les coupables, » murmura M. d'Agincourt. Et après avoir poussé un soupir de lassitude, il poursuivit. « Voyons, Henri, ai-je perdu ta confiance ? As-tu cessé de me considérer comme un ami véritable, ayant avant tout le désir de t'être utile ? Je n'ai jamais songé à douter de votre affection, mon oncle. » « Bon, en ce cas, jouons carte sur table et allons droit au but. Tu as une maîtresse, n'est-ce pas ? C'est ton droit. Cette maîtresse, tu entretiens avec elle depuis quelques mois des relations de plus en plus suivies qui tendent à former entre vous une liaison sérieuse, durable. Eh, mon Dieu, qui ne connaît cela ? Quel est le jeune homme qui est échappé à cette loi presque inéluctable ? Tu as, toi, une excuse de plus. » C'est un désappointement qui t'a jeté dans les bras de cette jeune fille. D'ailleurs, en t'attachant à elle, comme tu es, je suis sûr, en train de le faire, tu montres que tu as du cœur. On ne pourrait pas adresser le même compliment à tous les jeunes gens de ton âge. Halte-là, cependant, cette liaison, par là même qu'elle est sérieuse, et connaissant ton caractère, je le crois, constitue un danger pour toi. Elle poussera tous les jours des racines de plus en plus profondes dans vos cœurs. À la longue, elle deviendra une habitude indispensable à votre vie, dont vous ne pourrez plus vous défaire, que vous le vouliez ou non. Or, cette jeune personne, Mademoiselle Angèle, je crois, n'est-ce pas ? C'est gentil ce nom-là. Cette jeune personne étant de celle qu'on n'épouse pas ? Je ne vois pas pourquoi, interrompit gravement Henri. M. d'Agincourt eut un sursaut, mais tout de même, malgré l'objection, il acheva sa phrase. « Te voilà pour le reste de tes jours avec un fameux boulet au pied. »« Ça dépend de ce que vous entendez par boulet, » insinua le jeune homme. « Non, il n'y a pas de « ça dépend », » riposta vivement le vieillard. « Tiens, sans aller plus loin, je disais tout à l'heure, en riant, c'est vrai, que toute la ville jasait déjà de ton aventure. » Si ce n'est pas exact, ce le sera demain. L'histoire parviendra aux oreilles de tes chefs, on fera une enquête, tu recevras des semences, on te mettra en demeure de rompre, et pour t'y encourager, on t'enverra réfléchir en quelque coin perdu des Pyrénées ou des Alpes. À 40 ans, tu seras encore garde général. Et ce n'est qu'un des côtés de la question, il y en aurait 20 autres à envisager. Car de toutes parts, les ennuis surgiront, ta carrière peut être brisée. Tout cela pour... » Tout cela, interrompit Henri, parce que j'aurais refusé d'agir avec le brutal cynisme, avec le lâche égoïsme que la plupart des jeunes gens pratiquent à l'égard des malheureuses qu'ils séduisent. De ces jeunes gens qui abandonnent ainsi leur maîtresse, on dit qu'ils se conduisent bien, qu'ils ont compris leur devoir, qu'ils ont eu la raison de renoncer à une liaison dangereuse. Et il y a des parents pour les approuver, pour les pousser au besoin. Lâcheté, égoïsme, hypocrisie. Vous disiez à l'instant, mon oncle, que j'avais du cœur. Eh bien oui, j'en ai, et je le prouverai en faisant tout mon devoir, non pas le devoir que trace votre société vile et menteuse, mais celui que commande la noblesse des sentiments, la hauteur de l'âme, la sincérité de la conscience. » Monsieur d'Agincourt, ému, se taisait. Après quelques minutes, il demanda « Alors, tu l'aimes beaucoup, cette petite Angèle ?»« Oui, je l'aime, parce qu'elle le mérite et qu'elle m'aime, elle, au moins. » »« Au point de vue que je viens de dire, c'est dommage, » murmura le vieillard. « Mais je ne puis m'empêcher de t'approuver. C'est si beau et si rare, l'amour. Il faut le conserver quand on le possède. Il y a 45 ans, j'ai éprouvé ce que tu éprouves, souffert ce que tu souffres. Eh, mon Dieu, si j'avais cédé, comme tu veux le faire, au cri de mon cœur, à la voix de ma conscience, ma vie n'en aurait sans doute pas tourné plus mal. Et aujourd'hui, ma solitude ne serait pas aussi lourde. Enfin !» Et, la tête courbée sur la poitrine, sa voix s'éteignit dans un soupir. Puis, sa pensée, après avoir flotté un instant vers les lointains et inutiles regrets, revint à la réflexion, la réalité du rôle qu'il devait jouer lui réapparut, et, avec un ton d'apparente conviction, il reprit « Pourtant, mon cher Henri, si tu voulais, il y aurait encore un moyen de tout réparer. » « Réparer quoi ?» Je veux dire, un moyen d'assurer ta tranquillité et celle de ta mère en dirigeant ton avenir dans un sens plus conforme à tes intérêts. Vois-tu, si tu y consentais, je suis persuadé que j'obtiendrai facilement pour toi la main de Mademoiselle Lucienne. Au fond, c'est un bon homme, Chabran. Il n'y aurait pas grand-chose à faire pour détruire ses préjugés à ton endroit. Il prétend bien que sa femme le mène. Mais ce n'est pas une ogresse, cette bonne grosse ménagère. Mais ta vie conviendrait à bout de ses résistances. Les 10 000 francs de rente seraient déjà un argument puissant. Je vous en prie, mon oncle, n'insistez pas. J'ai dit non, c'est non. D'ailleurs, pour couper court, je préfère tout de suite vous avouer, vous déclarer, là, bien franchement, que si je me marie, je n'épouserai jamais que la mère de mon enfant. La mère de ton enfant ? Tu as un enfant ? La voix du vieillard tremblait. Il demeura une minute, cloué sur place, suffoqué. À la fin, il se ressaisit. « Allons, » fit-il entre ses dents. « C'était trop tard. Que puis-je faire maintenant, sinon m'incliner devant le fait accompli ?»« Henri, » ajouta-t-il en prenant les mains de son neveu, « Henri, tu es un brave garçon, un noble cœur. Je te félicite, oui, je te félicite sincèrement. » C'est peut-être en contradiction avec ce que je viens de te dire. Tant pis, j'aime mieux passer pour une girouette que pour un égoïste. Tu sais, un vieil oncle, ça se croit obligé de grogner, de faire des remontrances, et au fond... Oublie ça, n'est-ce pas? Pardonne-moi. Je n'ai rien à vous pardonner, mon oncle. Si, si, j'ai été dur tout à l'heure, je ne savais pas. Allons, à la grâce de Dieu.